BW. Droits et libertés.
Des armes intelligentes, avec toute une palanquette de guillemets bien sûr. Des armes intelligentes qui pourraient décider d'elles-mêmes quelles sont leurs cibles et tuer de façon autonome, sans l'intervention d'êtres humains. Ce sont ces types d'armes qu'on surnomme les robots tueurs que Stan Brabant, chercheur au GRIP à Bruxelles, essaie de combattre, ou en tout cas dont il essaie d'encadrer l'utilisation. Stan Brabant est notre invité cette semaine. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est Sandrine Blanchard de la Deutsche Welle.
Bonjour, donc mon nom est Stan Brabant. Je travaille pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, qui est basé à Bruxelles.
Stan Brabant, vous avez publié récemment une note d'analyse donc pour le GRIP concernant les robots tueurs. Une note dans laquelle vous vous inquiétez de ce que ces robots risquent d'être bientôt opérationnels. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un robot tueur ?
En fait, ça peut être presque n'importe quelle arme. Pour autant, qu'elle ait deux capacités. D'abord, une capacité d'identifier des cibles, de les repérer, et deuxièmement, d'attaquer ces cibles. D'elle-même. Donc, si vous voulez, c'est une arme qui échappe au contrôle humain.
Et ce sont des armes qui sont déjà fabriquées par une trentaine d'entreprises, c'est ça ? Qui sont situées dans quel pays ?
Il y a effectivement une trentaine d'entreprises qui nous posent question, parce qu'elles développent effectivement des armes qui ne sont peut-être pas encore totalement autonomes, mais qui glissent dangereusement vers une autonomie totale. Alors, les pays producteurs de ces armes, il y en a une bonne dizaine. Les principaux sont les États-Unis, Israël, la Chine, la Corée du Sud, la Turquie, les pays européens dans une moindre mesure, parce que les pays européens semblent avoir pris la mesure de l'importance de la préservation du contrôle humain sur les armes. Mais il y a quand même des productions sur lesquels il faut garder un œil.
Mais alors pourquoi est-ce que ces armes, vous les considérez comme encore plus dangereuses que d'autres ? Parce que finalement, une arme létale est destinée à tuer. Et en plus, là, on pourrait dire, du point de vue d'un État, par exemple, qui utiliserait ce type d'armement, que ça lui permettrait d'économiser la vie de ses propres soldats.
Oui, alors c'est un argument que l'industrie évoque. Mais l'argument ne tient pas vraiment, parce que les inconvénients de ces armes autonomes, notamment en termes de respect du droit, sont quand même très très lourds. Par exemple, en droit international humanitaire, il y a deux grands principes. Il y a un premier principe qui est le principe de distinction, et puis il y a un principe qu'on appelle le principe de proportionnalité. Ces obligations, en fait, signifient qu'il faut une personne pour assurer le respect du droit, et que si vous transférez ces obligations à une machine, qui sera responsable en cas de perte civile, par exemple. En d'autres termes, qui est-ce qui sera traduit en justice si des crimes de guerre sont commis ? C'est évidemment très très difficile. Est-ce qu'on envoie le producteur devant les tribunaux ? Est-ce qu'on envoie le commandeur de la force qui a laissé cette arme échapper à son contrôle devant les tribunaux ? Ou est-ce qu'on ne poursuit personne ? Donc ça, c'est vraiment une question très très importante. Une autre question très importante, qui est un peu plus philosophique en un sens, c'est que ces armes, en fait, éliminent les barrières psychologiques à l'usage de la force. À partir du moment où c'est une arme qui décide qui elle va tuer, vous n'avez plus cette espèce de retenue que l'on retrouve chez pratiquement tous les militaires de la planète. Il y a quand même cette retenue par rapport au fait de tuer. Il y a une hésitation. À ça s'ajoute évidemment une question très importante qui est à partir du moment où c'est une arme qui décide d'elle-même de frapper, est-ce qu'on ne risque pas un espèce d'enchaînement infernal où les armes autonomes d'une partie engagent une attaque, déclenchent un conflit, et les armes autonomes d'en face répliquent. Mais répliquent comment et avec quel contrôle ? Et donc là, vous ouvrez vraiment une boîte de Pandore. on ne sait pas ce qui va se passer. On risque très très clairement une escalade qui serait extrêmement dangereuse.
Parce que là, on parle notamment de robots intelligents, entre guillemets, c'est-à-dire oui. qui seraient susceptibles d'apprendre au fur et à mesure de leur utilisation à définir par eux-mêmes leur cible.
Oui, exactement. D'après ce qu'on sait, ces armes sont notamment équipées d'algorithmes qui sont développés souvent des années avant l'utilisation de ces armes, dans des laboratoires, dans des espaces fermés, tout à fait contrôlés. Mais comment envisager le fonctionnement de ces algorithmes dans des situations de conflit où l'adversaire tentera bien évidemment de prendre le contrôle de ces armes, sans compter évidemment le risque que ces armes tombent dans les mains de groupes terroristes et qu'elles soient piratées.
C'est ça, peuvent être piratées, oui. Mmh.
Absolument.
Téléchargez notre application dw.com/appli.
Et des armes qui seraient commandées uniquement par ordinateur, par algorithme, seraient également beaucoup plus rapides, même qu'un cerveau humain.
Tout à fait. Ce que vous décrivez est encore plus fort dans le cas de ce qu'on appelle les essaims. Les essaims, ce sont des groupes d'armes autonomes qui comptent une poignée à une vingtaine, voire une trentaine, peut-être plus à l'avenir, d'armes autonomes qui opèrent ensemble. Ces essaims sont extrêmement difficile à contrôler par le cerveau humain, parce que d'une part ça va très vite, et puis c'est extrêmement complexe. Et du coup, les producteurs délèguent la décision de plus en plus à ce qu'on pourrait appeler une espèce d'intelligence artificielle collective. Et donc là, évidemment, le contrôle d'un soldat, que ce soit derrière un écran ou derrière une tablette, à quelques mètres ou à quelques kilomètres, voire même quelques centaines de kilomètres, n'est même plus possible, puisque ça va trop vite et c'est trop complexe.
Est-ce qu'il n'y a pas déjà ce problème qui se pose avec ce phénomène que vous venez d'évoquer, de soldats qui font la guerre depuis chez eux, entre guillemets, depuis un ordinateur, et qui actionnent, depuis les États-Unis par exemple, des bombardements en Afghanistan?
Oui, c'est certainement une autre question très importante.
Là aussi, c'est virtuel et le soldat peut avoir moins d'impression de tuer que lorsqu'il est réellement dans un bombardier ou sur le terrain.
Tout à fait. Je dirais qu'ici, dans le cadre des armes entièrement autonomes, on va encore un pas plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus le soldat qui contrôle l'attaque. Quand on les interpelle, les producteurs de ces armes tentent de nous rassurer en nous disant que oui, mais il y aura quand même une possibilité d'arrêter, voire de changer le cours d'une attaque. Ceci dit, il y a certaines munitions rôdeuses, comme on les appelle, je pense notamment à une munition rôdeuse développée par l'Arménie, qui, quand elle perd le contrôle avec sa base, décide d'elle-même de la frappe qu'elle va opérer.
Alors, vous, Stan Brabant, vous plaidez pour l'adoption d'un traité international. Que devrait-il contenir ce texte? Quels engagements?
Ce que nous voudrions voir dans ce traité au GRID, c'est vraiment trois choses. D'abord, une obligation générale de conserver ce qu'on appelle un contrôle humain significatif sur l'usage de la force. L'intelligence artificielle doit être contrôlée. Un deuxième élément de ce traité serait une interdiction qui viserait les systèmes les plus problématiques, les systèmes qui sélectionne et attaque des cibles et qui, du fait de leur nature même, soulève des problèmes éthiques ou juridiques fondamentaux. Je pense par exemple à cette munition rôdeuse turque qu'on appelle le Cargo 2, un engin qui pose pas mal de questions. Il est notamment équipé de reconnaissance faciale et a cette capacité ou aura cette capacité à opérer en essaim. Et puis un troisième élément qui concernerait là des armes qui seraient un petit peu à la limite, en partie contrôlées par l'humain, mais pas suffisamment. Et dans ce cas-là, nous plaidons pour des obligations positives, c'est-à-dire des obligations qui assureraient un contrôle humain suffisant
Vous réclamez donc que les États prennent ces engagements dans le cadre d'un traité international simplement. Quand une telle technologie émerge, qui peut assurer à la fois de grandes rentrées d'argent pour les fabricants et puis éventuellement assurer un avantage militaire sur le terrain aux puissances qui les utiliseraient, est-ce que ce n'est pas difficile d'encadrer ou de renoncer à ces technologies quand elles existent ou sur le point d'exister, un petit peu comme l'arme nucléaire? Il n'y a aucune des puissances nucléaires qui a renoncé à son arme.
Oui, il ne s'agit pas ici de renoncer à une technologie. Il s'agit de renoncer à un usage incontrôlé d'une technologie. D'autant plus qu'il y a aujourd'hui quand même déjà un nombre très important d'États qui sont favorables à ces traités. Par exemple, les 125 États membres des deux alignés. À ça, il faut ajouter toute une série de pays comme la Nouvelle-Zélande ou comme l'Allemagne. Il y a vraiment une dizaine d'États qui sont encore opposés à un traité. On pense par exemple à des pays comme la Russie, dans une moindre mesure des pays comme les États-Unis. Un pays comme la France a une position un peu ambiguë. Il est à la fois favorable à une préservation du contrôle humain, mais pas ouvert à un traité, en tout cas pour le moment. Et donc, nous pensons qu'il y a vraiment une possibilité d'avancer. Mais évidemment, ça ne se fera pas tout seul et ça demandera une certaine volonté politique. On a vu le rôle absolument essentiel des pays africains dans d'autres processus de désarmement humanitaire. Je pense par exemple au processus d'interdiction des mines antipersonnelles, au processus d'interdiction des armes à sous-munitions.
Des armes à sous-munitions, oui.
Et donc, la voix de pays africains en particulier, peut être tout à fait déterminant, car ces pays sont évidemment dans une situation où ils pourraient être les victimes de ces armes à un moment ou à un autre. Et donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut agir.
Stan Brabant, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.
C'est la fin de ce magazine. Merci encore à Stan Brabant du GRIP. Vous retrouverez sur notre page un lien vers sa note de recherche sur les robots tueurs. Si vous souhaitez podcaster cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français à la rubrique « Nos podcasts ». Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien !